1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking, bro?
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je passerai à mon test.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Salut à Rajois, à Rajoise, vous êtes sur PFM 99.9 pour cette nouvelle émission des Décadrés. Alors à la technique, nous retrouvons notre cher camarade touffu Ange. Ange.
Je suis pas touffu.
T'es pas touffu, t'es touffu tout flamme alors.
Oui, tout à fait, je préfère.
Quand vas-tu Ange?
Mais très bien, pleine forme.
Pleine forme.
Je suis bien.
Alors ce qu'on vous dit pas, c'est que Ange était affreusement en retard, il nous a foutu en retard sur l'enregistrement.
C'est
parce
pas vrai.
Que monsieur a eu une soirée un peu chargée hier, donc du coup voilà.
De quelle soirée tu parles?
Exactement, faisons comme si de rien n'était. Benjamin, notre éphèbe, notre poète, l'homme... au long discours, l'homme qui a le bras long, comment vas-tu?
Et aux cheveux courts.
Et aux cheveux courts.
Mais là, ils ont repoussé.
Ah ouais,
ça va.
Ça va?
Ouais.
T'es sûr?
Ah, en pleine forme.
Alors, du coup, aujourd'hui, une émission pas comme les autres, hein, parce que pas de news de Ben, et non, aujourd'hui, non.
Il y avait pas l'envie, puis pff, c'est dit, bref.
Voilà, vous voyez, merci chers beaucoup. Auditeurs de PFM, que Benjamin pense tout le temps à vous. Hein, du coup, voilà, pour Ben, pas besoin de faire de news aujourd'hui. C'est vrai que ça arrive, des fois, il y a des journées où il n'y a pas grand-chose à dire. Mais par contre, tu vas nous parler d'un jeu vidéo aujourd'hui.
Oh. Ouais, ça s'appelle No Man's Sky.
No Man's Sky, donc un homme dans le ciel.
Non,
il n'y a pas d'homme,
non,
dans,
pas
le
d'homme
ciel.
Dans le ciel.
Donc, j'ai appelé ça No Man's Sky ou comment nous avons eu foi en un jeu sans âme. Ça montre bien déjà la déception qui est arrivée. Alors, au mois d'août est sorti sur PlayStation 4, puis sur PC, il faut le dire, le 12, il me semble. Un jeu très attendu par les gamers et par les curieux. No Man's Sky.
Moi, personnellement, je l'attendais.
Hein. Oui, développé par Halo Games et sorti de l'imagination de Sean Murray. On va beaucoup le dire, ce nom.
Murray.
Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, je vous entends dire?
Bah, qu'est-ce que c'est que ce jeu?
Oui.
Allez,
Benjamin.
Évitez-moi.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu, Benjamin?
Dans No Man's Sky, vous incarnez un spationaute qui se réveille sur une planète dangereuse. Donc, vous devez réparer votre vaisseau spatial en allant collecter des ressources autour de vous ou sur toute la surface de la planète si vous avez le temps.
Mais dis-moi, Benjamin, ça ressemble étrangement à un jeu de gestion.
S'il y a un petit côté jeu de gestion.
Ah!
Donc vous décidez de prêter allégeance à la fois, soit à l'Atlas, pardon, qui est un étrange monolithe sorti de l'imagination d'un fan de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. Si vous lui dites oui, alors vous suivez la voie de l'Atlas, qui est celle de l'explorateur, sinon vous êtes complètement libre. Donc votre vaisseau réparé, vous envolez de cette foutue planète, que vous serez le seul à avoir découvert. Ouais, vous la renommez ou lui laissez son nom de code, puis envoyez votre découverte dans une encyclopédie géante disponible pour tous les spationautes. Vous sortez de l'atmosphère, rejoignez le vide spatial, et alors, votre nouvelle vie commence. Faites ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Voilà qui pourrait être un bon slogan pour le jeu de Sean Murray, qui se veut être l'expérience ultime.
De la liberté.
Liberté.
Ouais, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais No Man's Sky, il nous a été quand même vendu comme l'expérience vidéoludique parfaite.
Oui.
Complète. J'ai envie de dire le premier et le dernier jeu.
Oui, c'est ça, ça. D'autant plus que le jeu a quand même fait un sacré ramdam avant sa sortie.
Clairement.
Parce qu'il était très attendu des gamers, aussi bien sur console que sur PC, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que le jeu est censé offrir une dose de liberté, et aussi bien dans les missions,
ouais,
que dans l'exploration, que dans les actes. C'est vrai que sur le papier, le projet est magnifique, hein, on va pas se mentir.
Exactement, Antoine. L'univers n'a plus de limites, selon Sean Murray. Grâce à la technologie de la génération procédurale, donc je vous présenterai un peu plus tard, vous pouvez explorer à la sortie du jeu, donc vous pouvez explorer 18 milliards de milliards de planètes. Donc c'est pas mal, et vous pouvez y aller à votre guise, quoi.
Bon. Et on croise des gens c'est un MMO en fait.
C'est un MMO mais connecté. Donc moi j'ai jamais croisé un seul joueur.
D'accord, donc en fait c'est tellement vaste que on croise personne.
Ouais, puis c'est tellement vide aussi que de toute façon il n'y a personne qui va.
Voilà.
Donc comme l'a dit Sean Murray, tout ce que vous voyez dans le jeu peut être atteint. Vous êtes sur une planète, vous voyez la lune, vous pouvez y aller. Par contre, donc vous pouvez changer de système, vous pouvez. Enfin, vous voulez changer de système, vous le pouvez. Mais il faut collecter des ressources toujours pour améliorer votre vaisseau, l'alimenter. Parce que sinon, vous ne pouvez plus décoller du tout, hein, je préfère vous le dire. Vous devrez vous défendre contre des pirates de l'espace, ça c'est sûr. Mais qui dit que vous ne serez pas vous-même un pirate ou un killer de la galaxie? Mes chers frères et chères sœurs, Sean Murray vous a voulu libre et c'est ainsi que vous devrez avancer avec votre libre arbitre. Vous avez remarqué que ma chronique faisait des références aux religieux? Justement, on y est. Sean Murray est le créateur de cet univers. Il est le dieu de cette machine pourtant sans âme. Vous vous dites qu'être libre de faire ce qu'on veut, bah c'est génial. Problème, vous n'avez quasiment aucune quête, hormis celle de l'Atlas ou celle de l'explorateur qui déciderait d'aller jusqu'au centre de l'univers. Vous pensez être libre de parler à des civilisations entières extraterrestres ou encore être un pirate de l'espace avec votre troupe? Bah, faut abandonner l'idée parce que le jeu est en manque de contenu complet malgré son infinité. Les planètes tendent à se ressembler. Leur surface entière visitable, donc est visitable, mais elle manquera de diversité géologique et biologique. Et aucune cité alien n'existe encore.
Mais en gros, c'est un peu comme Minecraft à ses débuts, quoi. Ouais. Parce au final, t'as les villages de PNJ, tu les voyais pratiquement une fois tous les 15 000 km. Mais, ouais.
Mais du coup, est-ce qu'ils ont prévu des patchs dans des mises à jour pour pallier justement à ce vide intersidéral, hein, si
va,
je peux dire.
Ça va arriver. Mais là, le gros problème, c'est que tout est vide, comme si rien n'avait jamais été découvert, malgré l'existence de races extraterrestres organisées avec un langage, ou encore malgré l'existence de plateformes d'échange et ventes sur la planète ou dans l'espace. On retrouve aussi, par exemple, parfois des blocs des bâtiments, mais c'est toujours les mêmes, c'est tout petit en plus, c'est assez ridicule. Et les animaux ressembleront à certains moments à des monstruosités difformes, parce que c'est un ordinateur qui les lit et qui les transforme. Donc du coup, bah, parfois, vous aurez un chien avec une tête de cochon, quoi. Et surtout, vous serez seul, affreusement seul. Bref, bienvenue dans la Matrice.
Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? 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 Pourquoi tout ça?
Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Sean Murray? Pourquoi tout ça? Eh bien, je vais vous le dire. Le jeu, et c'est là qu'était l'un de ses intérêts, repose sur la génération procédurale. Vous en souvenez? C'est-à-dire que l'univers, les planètes, les vaisseaux, les modules, les bâtiments, tout est généré par des algorithmes qui travaillent à partir des ingrédients définis par, par les développeurs. Mm-hmm. Sachant qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients, le jeu il pèse 5 gigaoctets.
Voilà. C'est vrai?
Ouais, je préfère vous le dire. Et donc, les ingrédients définis par les développeurs et qui fonctionnent sur des règles logiques aussi mises en place par l'équipe. Donc ça, c'est des règles scientifiques, par exemple les distances.
Est-ce que c'est peut-être pour ça que, justement, on ne croise personne
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vide. Ouais. On croise parfois quelques aliens, ils sont souvent en colère ou gentils, et c'est tout. Donc, ne vous y trompez pas, la technologie date déjà des années 80, oui. La génération procédurale. Donc, Minecraft, No Man's Sky, donc, fonctionne sur ce système. Et avant No Man's Sky, et ça, je tiens à le dire, on avait déjà Elite Dangerous sur PC qui nous faisait voyager dans une galaxie de 200 milliards de planètes. Et visuellement c'est un truc de fou, c'était magnifique. Donc Sean Murray, Sean Murray s'apparente à un créateur, bah c'est pas un parfait créateur parce que c'est une machine qui gère quasiment tout le boulot. Problème, si les joueurs attendent toujours une mise à jour avec du contenu, bah No Man's Sky tel qu'il est sorti, tel qu'il est encore aujourd'hui, bah tient du vide intergalactique. C'est rigolo, c'est que c'est l'expression de Gamer's Blog. Donc si on ne peut nier une certaine majesté, la sensation formidable que provoque en nous le fait de voyager dans un système solaire, faut le dire, ça, c'est un rêve de gamin. Donc avec ses différentes planètes, les caractéristiques, la météo qui change, bah, No Man's Sky est probablement un jeu sans âme, faut le dire. Et l'univers technologique, donc s'il y a eu un travail de studio derrière, donc studio Delo Games, est avant tout régi par une machine et non par des cœurs humains qui l'ont complètement défini. Ça faut le dire, un peu comme dans les jeux GTA, Assassin's Creed.
Ouais, ouais.
Et qui vont l'aider à grandir sans cesse, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui a bien grandi, tu vois. Mais... Le truc, c'est qu'on veut nous faire croire qu'il y a une infinité de possibilités, sauf que tout est très limité, le gameplay est limité. Au final, c'est... vous allez sur une planète, vous prenez des ressources pour décoller, et après, vous achetez ou pas. Et là, je vais citer un article qui est écrit par David Caviglioli, donc, qui s'appelle, qui est très justement titré, « Un univers sans dieu et la philosophie désespérante de No Man's Sky ». Et en plus de dire à quel point le jeu est répétitif, donc il dit que les choses changent sans changer. Et là, c'est lui qui dit attention, on décolle, on accomplit toujours un peu les mêmes tâches, on extrait des ressources, on vend, on analyse des espèces, on répertorie les planètes et systèmes, on décolle, puis on fait de même dans un autre système. Bref. Donc, c'est toujours la même chose. Et ben, l'auteur note que le jeu tend à nous faire vivre ce qu'il appelle le pessimisme cosmique. Et qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est l'intuition de notre insignifiance totale dans l'univers. je rajouterais que le joueur ne sent pas seul dans un univers d'une richesse infinie. Vous voyez, No Man's Sky, c'est une expérience terrifiante parce qu'elle nous fait rendre compte à quel point l'humanité est infime et même condamnée à l'errance, si ce n'est à la disparition, dans un monde qui est complètement régi par les machines et par la technologie. Et on ne s'est jamais senti aussi seul dans un univers technologique. Et donc j'ai cité deux articles qui est celui de Caviglioli et le deuxième, bon, je ne l'ai pas cité mais je l'ai utilisé, c'est sur Numérama, ça s'appelle « La science derrière les univers infinis » de David Julien Ramil du 12 janvier 2016 que je vous conseille de lire. Et maintenant je vous laisse avec une musique de la bande-annonce de No Man's Sky.
Vous êtes toujours sur PFM 99.9 avec les décadrés.
Ouais.
Oui. Et maintenant, nous allons passer à Antoine.
Oui, c'est moi.
Je te laisse la joie de ton introduction parce que je sais que t'aimes bien nous faire des petites surprises des fois.
Eh ben, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas fait une superbe introduction.
Punaise.
J'ai voulu faire quelque chose de sobre à l'image de cette chose dont je vais vous parler. Je vais vous parler donc de The Boys.
Des petits gars.
Ouais, les petits gars. Alors, en fait, The Boys, c'est un comics américain créé par Garth Ennis et Derek Robertson. Alors, Garth Ennis, qui sera le scénariste attitré du comics, et Derek Robertson, qui sera le dessinateur fréquent, hein, parce que The Boys a la particularité d'alterner entre plusieurs dessinateurs, mais c'est pas choquant, c'est toujours le même style. C'est juste Derek Robertson en fait qui signe majoritairement les pages et les couvertures.
Après, Ennis c'est c'est l'auteur.
Oui.
Et Robertson, il me semble que c'est co-créateur.
Co-créateur, ouais. Ils sont tous les deux créateurs pour le coup, mais
c'est Ennis le principal.
Mais c'est Ennis voilà le principal intéressé. Alors, The Boys, il s'agit d'un comics édité chez Dynamite Entertainment. Alors, et petite anecdote rigolote concernant l'édition du comics. À la base, le comics était édité chez Wildstorm et sera annulé suite à l'apparition de quelques numéros. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ?
Vous savez que c'était chez DC Comics aussi à la base.
Bah justement, tout simplement parce que Wildstorm était une filiale, enfin, est toujours une filiale de DC Comics. Alors DC Comics, à qui on doit les Superman, Ligue des Justiciers, Batman. Et en fait, il s'avère que DC Comics était plutôt gêné par le ton et l'ambiance qui régnait dans le comics, ainsi que les thèmes qui y sont évoqués. Oui, les discours aussi. Et pourtant, les effusions de sang, le sexe et l'humour sont trois choses qu'on représente, enfin qui sont bien présentes dans la plupart des œuvres éditées chez DC. Mais The Boys a quand même cette particularité de se dérouler déjà dans un monde parallèle au nôtre et dans lequel les super-héros existent. Bon, rien de bien original, vous allez me dire. Cependant, The Boys propose quand même plus que ça. Il propose une aventure graphique somptueuse dont l'espionnage est au cœur de l'intrigue, mais déploie également des scènes d'une violence extrême et un humour des plus cyniques. Alors bon, je suis conscient que le portrait que je dresse de ce comics vous donne pas franchement envie de le lire. Certains d'entre vous ont peut-être l'envie de lire, mais croyez-moi, en tous les cas, c'est un comics qui mérite vraiment d'être lu et qui mérite encore mieux d'avoir une place dans votre bibliothèque. Alors, dans la réalité de ce monde où les super-héros et les humains, pas les super-humains, non, parce que c'est des humains tout simplement.
Oui, ils sont super quand même.
Voilà, ils sont super, voilà. où les humains cohabitent. Alors, les super ont été créés par une multinationale du nom de VAUS, American Consolidated. Superbe accent anglais. Une entreprise d'armement qui produit un sérum procurant des super pouvoirs.
Composé V,
j'y reviendrai plus tard. Une entreprise d'armement qui produit un sérum procurant des super pouvoirs. Donc cette même entreprise dispose également d'un contrôle absolu sur l'image des super, comme ils sont appelés dans le comics, grâce notamment aux outils marketing et à leur travail de communication à travers l'usage notamment des comics qui sont présents dans le comics en fait.
Il y a une mise en abîme voilà, d'autres univers quoi.
Voilà, les bandes dessinées qui sont présentes et qui relatent les histoires légendaires de ces super-héros, des histoires qui somme toute ne sont que des histoires, hein, des légendes, de qui, voilà, c'est de la fiction, tout est faux. Et du coup, ils vont créer un empire financier sur le dos et grâce à l'image de ces super-héros. Et d'ailleurs, des super, bah, pas si super que ça, hein, pour la plupart, hein, parce que certains sont corrompus, d'autres sont juste irresponsables, d'autres sont, ont des vices, voilà, ont des vices, sont des criminels, sont des tueurs, sont des violeurs d'enfants, de femmes, ils vont aux putes, hein, il y a plein, il y a
pervers pédophiles narcissiques.
Oui, ouais, non, mais il y a de tout en fait, et en fait, enfin voilà, ces super héros se fichent de rendre la justice, car selon eux, leur pouvoir qui leur sont conférés leur permet d'aller au-delà des lois établies par les hommes. Pour eux, leur pouvoir font qu'ils transcendent toutes les règles de l'humanité. C'est une espèce un peu évoluée de l'homme, un peu supérieure. Ils sont dans cet état d'esprit-là. Enfin bon. Donc bon, voilà, c'est un peu le tableau pour The Boys. Mais bon, je tiens quand même à vous rassurer parce que tout le monde n'est pas complètement taré dans ce comics. Hein, puisque la CIA, tout de même, se dit il y a un petit problème. Il y a des mecs hyper dangereux qui peuvent détruire l'humanité en un claquement de doigts s'ils le veulent. Du coup, ils décident d'envoyer un de leurs agents qui s'appelle Billy Butcher, ouais, que Benjamin aime beaucoup.
Le boucher.
Voilà, Billy le boucher, pour créer une équipe spéciale qui devra surveiller les agissements des supers, mais également neutraliser ceux représentant un trop grand danger pour la population et aussi pour les intérêts de la CIA, parce que c'est aussi beaucoup de manipulation.
Ouais, c'est
voilà, c'est la manipulation politique, c'est du combat financier, tout est calculé en fait. Hein. Billy Butcher joue avec les règles de la CIA, mais la CIA lui laisse quand même carte blanche. Donc,
par exemple, ils savent que Vought essaye de mettre les super-héros dans le programme de la défense nationale.
Voilà. Et par exemple aussi que le vice-président qu'on voit plusieurs fois dans le comics,
Vic le vice-pré.
Voilà, Vic le vice-pré fait partie de Vought déjà, voilà. Et il a été imposé par la multinationale au régime politique des États-Unis. Oui. Moment des élections.
Ce personnage est cité quand même comme le débile obéissant très bien aux ordres.
Oh, alors, très débile obéissant très bien aux ordres qui va se révéler par la suite, enfin, je ne dirais pas qu'il va se révéler un peu.
Non, il est débile.
Oui, il est débile, non, mais il est imprévisible en fait.
Vic le vice-pré ?
Ouais.
Oh non. C'est plus le vote qui est derrière. Mais parfois, ici, c'est vrai qu'à un moment donné, il va être tellement imprévisible que ça va se retourner contre lui, mais il est vraiment débile.
Oui, oui, non, mais il est débile, mais sa débilité le rend imprévisible, en fait.
Ouais,
et là, bon, là, je vous ai parlé de Billy Butcher, et vous vous dites, ouais, attends deux secondes, mon petit gars, là, tu vas quand même pas me faire croire que des simples mecs humains vont se ramener en slip avec leur quéquette et leur couteau pour s'attaquer à des super-héros qui pourraient tout exploser. Et bah, tout simplement, oui, ils vont le faire, hein, parce que ce sont des hommes qui ont des bowels, on va dire.
Ils ont du composé vert.
Exactement, ouais. Voilà, j'allais y venir. Parce qu'il faut savoir que nos chers membres de l'équipe des petits gars, les boys, vont utiliser le même sérum que les super afin de pouvoir leur tenir tête. Enfin, c'est pas exactement le même sérum, c'est le composé vert.
En fait, c'est à peu près le même sérum, sauf que c'est pas inoculé de la même manière.
Voilà.
Les boys le prennent quand ils sont des adultes, ils sont déjà des humains quoi.
Oui.
À la base, alors que par exemple le grand super-héros là.
Oui,
le protecteur.
Et lui, il a été créé à partir directement
voilà.
Du composé. Là.
Du coup, ça a pas les mêmes effets. Ça décuple leur force, leur rapidité, leur réflexe, mais ça leur permet c'est juste ce qu'il faut pour avoir le contrôle sur les pouvoirs qui sont eux pour éviter de blesser des innocents par exemple.
Après ils sont complètement cinglés quoi.
Oui, ils sont complètement
cinglés. Si on prend le français, les
français et la fille sont des tarés.
Voilà.
Ouais. C'est exactement ça. Donc bon, là je vous ai présenté justement le personnage de Butch qui est très important dans le comics puisqu'il a un passé trouble avec l'un des super justiciers qui compote l'équipe des 7. On l'avait dit, il s'appelle le protecteur qui est un peu une caricature de Superman en fait. Et d'ailleurs l'équipe des 7, c'est ça, c'est une caricature un peu une référence à Justice League
et Avengers.
Et Avengers de DC Comics et de Marvel. Mais voilà, le personnage principal de cette histoire, quand même, c'est Huggy. Alors, c'est le principe. Enfin,
au début,
voilà, ouais. C'est le personnage sur qui une partie de l'intrigue va tourner. Mais, un personnage que vous allez, je pense, apprécier parce que nous, on l'aime vraiment. Alors, petit Huggy qui sera mis au centre de l'histoire. Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous raconter un peu l'histoire de Huggy, qui est assez terrible. Alors, Huggy, c'est un jeune écossais naïf dont la petite amie a été tuée accidentellement par l'un des sept lors d'un rendez-vous amoureux. Alors, c'était Train H, je crois, qui l'a tué. Une caricature de The Flash.
Mais comment aussi ?
Alors, en fait, voilà, la caricature de The Flash qui, sans le faire exprès, on va dire ça, lui fonce dedans sa copine. Oui, le terme dedans est bien choisi, hein, parce que c'est il fonce dans sa copine et dedans la copine, parce qu'après elle se retrouve encastrée dans un mur.
Il envoie un super vilain.
Ouais, voilà, il envoie le super, voilà, sur le super
vilain. Il envoie le super vilain sur le gars, pardon. Et en fait, il rentre dans la copine, il l'écrase contre un mur et ne laissant que les bras de celle-ci maintenus par le pauvre Guy. Qui est terrifié par ce qu'il a vu. Voilà, voilà. Du coup, vous pouvez vous imaginer sa réaction et aussi les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'équipe des Boys. Alors, c'est vraiment un très bon comics avec des superbes dessins, des effets de lumière, surtout dans les phases d'espionnage qui nous font vraiment penser à des films noirs, des polars. Beaucoup d'importance donnée à l'ambiance, mine de rien, dans le comics.
Il y a un vrai sens du détail.
Exactement.
En fait, la BD est hyper détaillée, que ça peut être dans une case, ou même dans les informations.
Oui.
Et en tout cas, en France, il y a des tomes de luxe.
Oui.
Ils ont fait 6 tomes de luxe. Je peux vous dire que c'est
édité chez Panini d'ailleurs.
Voilà, c'est des encyclopédies, c'est des énormes bibles parce qu'il y a beaucoup d'infos et c'est une belle relecture de notre monde, quoi. C'est beaucoup plus proche de notre monde que ce que sont les comics, par exemple, de Batman ou de Superman.
Oui. Et puis surtout, aussi, ça permet de rigoler.
Oui.
Aussi, de se moquer. On peut dire ça, oui. Ouais, est-ce qu'on peut dire se moquer ? Oui, se moquer des super-héros un peu. On en arrive même à les détester, même.
Clairement.
On a l'occasion de vivre une expérience différente, comme tu disais, que sur des comics tels que Superman, oui. Batman, Spider-Man ou encore Wolverine. On ne suit plus la complexité pour un héros de trouver sa place en tant qu'être humain en faisant le bien, mais plutôt on se questionne sur comment garder une part d'humanité en tant que super-héros dans un système un peu hollywoodien où les super deviennent des marques de fabrique et aussi comment nous, en tant qu'êtres humains, nous devons réagir face à des forces qui parfois nous dépassent.
En fait, c'est clairement imaginer c'est super dans notre monde. Donc notre monde qui est où il y a beaucoup de sociétés, du marketing à tout va. On est dans une société de l'image extrêmement promotionnelle, surpublicitaire. Et du coup, quelle est la place de ces super-héros là-dedans ? Parce que beaucoup de BD et même beaucoup de films ne l'interrogent pas.
Oui, c'est vrai.
Et là, les Boys questionnent cette idée et c'est assez brillant. Et même questionnent.
Enfin, c'est la chronique de Benjamin, hein, j'oublie de vous le dire.
Mais ça questionne même notre fantasme.
Oui.
Parce qu'on fantasme l'idée du héros super positif.
C'est ça.
Mais qu'est-ce qui serait vraiment dans notre société ?
Oui, voilà. Alors, on voit au fur et à mesure, par exemple, tous les super-héros, les protecteurs, tous les héros ont leurs vices. Et même ceux qui sont censés représenter la barrière contre le mal. Sont en fait des salauds en fait, quelque sorte. Et voilà, c'était un petit extrait de Vaudoodle, Son of Dave. Alors, maintenant, nous allons passer à notre cher Ange.
Oui, c'est
qui
moi.
Va aussi nous parler d'un film avec des super-héros.
De grands super-héros, des super-héros que nous adorons, des super-héros que nous chérissons, Superman et Batman. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, de la sortie du film de Batman v Superman le 23 mars 2016. Comme il se doit, il était tant attendu ce film. Enfin, la rencontre entre ces deux super-héros que nous aimons tant. Alors, Batman v Superman, qu'est-ce que c'est ?
C'est quoi ?
Batman v Superman, c'est un film relatant la création ou les débuts de la rencontre entre Batman et Superman, mais aussi les débuts de la création de la Ligue des Justiciers. Bien sûr, film qui sortira aussi prochainement, je ne sais plus la date.
L'année prochaine.
2017.
2017. Été 2017.
Donc voilà, relatant en fait leur rencontre et leur début ensemble qui, contrairement à ce que le grand public peut penser, contrairement à ceux qui n'y connaissent rien aux comics peuvent penser, ils n'étaient pas copains dès le début.
Et non.
Et non, parce que sinon ça serait trop simple. Batman et Superman, en fait, se foutent sur la gueule littéralement dès le début de leur rencontre, parce que dans ce film, Batman voit pratiquement toute son équipe de Wayne Company chez Metropolis se faire défoncer la gueule par Zod et Superman qui se battent. Et oui, parce qu'il faut savoir que Batman vs Superman...
V Superman,
c'est bien ce que j'ai dit. C'est parce que le S de Superman, ouais, il s'est un peu allongé. Superman.
Superman.
excusez-moi, je suis encore un peu. Donc voilà, Batman v Superman commence à la fin du film Man of Steel, donc pendant le combat de Zod contre Superman. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Man of Steel, je vous conseille de le voir bien avant de voir Batman v Superman, parce qu'il vous permettra de comprendre certains éléments du film présents dedans, comme l'arrivée d'un vaisseau spatial qui est dans de ses où, les éléments qui composent ce vaisseau spatial, enfin voilà, plein de choses qui vous permettront de comprendre, mais attention aussi, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Batman v Superman, la version cinéma risque d'être un peu...
Trop lente
pour vous et trop incompréhensible en fait pour vous, parce qu'on a eu l'expérience avec Antoine de regarder ce film avec trois non connaisseurs du tout de cet univers.
J'avais dit qu'ils n'étaient pas concentrés les gens.
Il posait beaucoup de questions justement parce qu'il n'y comprenait rien.
Après je pense que c'est très difficile de se concentrer sur un film quand tu n'as pas
les informations
nécessaires dès le début, je pense. Et c'est vrai que les gens n'étaient pas très concentrés, mais en même temps, tu peux pas leur en vouloir.
Non,
ils n'étaient pas très concentrés, mais ils posaient énormément de questions parce qu'ils ne comprenaient vraiment certaines choses.
Ils posaient des questions pertinentes, en fait, par rapport au film. Certes, ça nous faisait chier parce qu'on avait envie de regarder le film tranquillement, mais ils posaient quand même des bonnes questions pour l'avancée de l'histoire. Par exemple, pourquoi Wonder Woman est là ? J'ai dit, ok, tout le monde la voit la première fois dans un salon pendant le pot que fait Lex Luthor, mais on ne sait pas ce qu'elle fout là en fait. On la reconnaît, ils le disent. Dans la version courte ? Ah, oui, non, mais ils le disent avec la photo. Elle cherche une photo, mais voilà, elle se casse le cul à venir là et tout, juste pour une photo.
Juste pour la photo.
Mais d'où elle vient, ça, on n'en sait rien, tu vois. C'est ça le souci.
En même temps, c'est ça qui est bien, on saura plus tard.
Ouais, mais il manque quand même beaucoup d'informations. Pareil, nous avons le personnage de Lex Luthor campé par Jesse Eisenberg. Juste après Kevin Spacey qui était dans Superman Returns, Lex Luthor est un personnage aussi très bien campé dans ce film, je trouve. Un parfait psychopathe aux cheveux longs. Et oui, Lex Luthor, si vous le connaissez, n'est pas rasé pour le moment.
Non.
Il a les cheveux très longs. Il paraît absolument... C'est un gamin, en fait. C'est un adolescent dans la fleur de l'âge qui passe à l'état adulte, qui contrôle une grosse société récupérée par son père, qui est un gros psychopathe. Mais... le souci, c'est qu'en fait, en voyant ce personnage, j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'en fait, il aurait pu faire un parfait Joker, comparé à Jared Leto, je pense, des images que j'en ai vues. On lui aurait foutu des cheveux verts, ça aurait très bien fonctionné. Oui, parce que Jesse Eisenberg, en fait, au final, c'est un acteur qui était en montée il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Il n'était pas connu il y a quelques années encore, et il a fait des putains de films, et là, il est parfait en fait pour ce film parce qu'il le campe très bien.
Ouais, il est trop en mode Joker. Je pense que comment il s'appelle, Lex Luthor incarné par Kevin Spacey, c'était beaucoup plus intéressant.
Bah, il était plus dans l'ordre du machiavélique en fait.
Il était plus adulte et plus viscéral. Oui. Là, le truc c'est que Jesse Eisenberg, il est aussi machiavélique, il fait beaucoup son show. Il est malin.
C'est un showman poète.
Ouais.
C'est ça, il sort tout le temps des citations quand il parle, il fait que ça. Mais dans tous les cas, c'est une nouvelle adaptation de Lex Luthor qui est quand même bien tenue.
Ouais.
Je trouve. Après, pour les fervents partisans de films d'action, n'allez pas voir ce film. Enfin, si, allez le voir, mais vous ne serez content pendant à peu près 5 minutes, je dirais, parce que Batman v Superman n'est pas un film d'action à proprement parler.
Un film sur les super-héros.
Voilà, c'est vraiment un film.
Il est complètement anti-spectaculaire, à part la bataille de fin.
Voilà.
Ils ont quand même la poursuite, etc.
Oui, enfin, après, quand je dis anti-spectaculaire, c'est pas l'action qui fait rythmer le film, en fait.
Bah, dites-vous que c'est pas un film qui est fait pour les gunfights, et que même si les trailers vous l'ont vendu comme ça, on n'est pas là pour voir des gladiateurs se mettre sur la gueule pour rien. Il y a une histoire derrière, ça se met en place, ça avance.
Mais c'est quand même un très bon film.
Voilà. Mais c'est pas Fast and voilà, Furious.
Faut pas aller voir Transformers 5 ou 42 comme vous voulez. Il y a pas de souci. Parce que là, vous serez plus fourni en action plutôt que ce film-là, qui est un film très politique, qui peut paraître lent pour ceux qui ne connaissent pas, comme on l'a vu avec nos trois compères la fois dernière, qui ont failli s'endormir devant, pas carrément. Donc là, c'est que la version courte dont je vous parle. Donc si vous voulez voir la version longue, si elle vous tente quand même, attendez-vous à un film de 3 heures.
Ouais, mais il est d'un rythme...
oui, grâce aux scènes supplémentaires, ça doit être pas mal.
Puis, en fait, tout a été quasiment remonté. Même parfois des micro-plans dans des scènes d'action, et tout était revu, c'est assez formidable.
Sur ce, nous vous laissons, on va vous dire au revoir.
Au revoir.